Mesdames, Messieurs, l'association italique a voulu attribuer l'un de ses prestigieux prix annuels à mon livre « La Parigi et la Francia di Carlo Rosselli ». Il s'agit pour moi d'un très grand honneur d'être récompensé par ce jury de scientifiques reconnus. De même, je ne vous cache pas mon émotion quand j'ai appris que le récipiendaire de l'édition 2012 était l'historien Pierre Mizza, et que cette année, l'un des lauréats était le directeur Genius Calfani. Je souhaite partager cet honneur avec ceux qui ont contribué à ce projet. Tout d'abord, la maison d'édition Biblion, qui a fait confiance au jeune, ou désormais relativement jeune doctorant que je suis, en publiant mon premier ouvrage, issu en partie d'une thèse en cours. Je souhaite ensuite remercier mon directeur de thèse, le professeur Vecchiliac, qui en a écrit la préface. Lors de ces années de travail avec lui, j'ai pu profiter de ses connaissances encyclopédiques, notamment sur l'antifascisme en exil, et de sa sincère bienveillance, et plus important encore, de son approche antidogmatique dans le sillage, dirais-je, puisqu'il s'agit ici de Carlo Rosselli et de Justitia Libertà, des enseignements d'un Gaetano Salvemini. Je tiens également à remercier mon épouse, et j'aurais dû le faire en tout premier lieu, mes parents et mes amis pour leur encouragement tout au long de la rédaction de ce livre. Et enfin, je remercie deux amis, deux italiennes de Paris, Paola Vallat et Francesca Gulizia, qui en vérité ont eu l'idée de cet ouvrage. En effet, cette histoire mérite bien un petit détour. Un jour du printemps 2010, je m'étais rendu au cimetière de Père-Lachaise pour visiter le lieu où furent enterrés les frères Rosselli avant le transfert de leur dépouille à Florence, et où leur tombe, devenue catafalque, est toujours présente, non loin de celle de Piero Gobetti. Ceci me semblait un acte obligé pour quelqu'un qui s'apprêtait à préparer une thèse sur les années parisiennes de Carlo. Lors de cette visite, je cherchais peut-être aussi, plus ou moins consciemment, une sorte de réconfort spirituel au vu de la situation politique de mon pays natal, l'Italie. Il s'agissait d'une démarche personnelle et j'étais étonné que le hasard me fasse rencontrer sur place un petit rassemblement d'Italiens venus faire leur propre pèlerinage républicain. Une dame lisait tout haut des extraits des articles de Carlo et d'une lettre de Nello. C'était justement Paola. J'interrogeais une autre des participantes, Francesca, qui m'a raconté que la veille au soir, elle et cette Paola avaient rencontré un certain professeur Biac. Elle lui avait proposé de participer à un projet de guide touristique de Paris sur les traces de Carlo Rosselli. Le professeur Vial leur avait conseillé de s'adresser à un jeune Milanais dont il s'apprêtait à diriger la thèse qui devait justement porter sur l'action politique et les raisons intellectuelles tissées par le chef de Justitia Libertà lors de ses années françaises. Alors que Francesca m'exposait cette conversation, toute ignorance qui j'étais, je l'ai interrompu en m'exclamant « Mal dottorando Milanese sono io » avant que la discussion se transporte du cimetière en café. Au fil de moi, ce projet a pris forme. Un tournant a été franchi quand, grâce à une bourse de l'École française de Rome, j'ai pu passer un mois ici, dans la capitale italienne. Et à cette occasion, j'ai pu éplucher quotidiennement, avec l'aide de ma future épouse, des dizaines de dossiers de police politique fasciste conservés à l'Archivio Centrale di Stato. J'ai eu ainsi accès à une énorme quantité de documents qui retraçaient jour par jour la vie de Rosselli dans la capitale française. On y trouvait des informations aussi diverses que les comptes rendus du comité secret de Justitia Libertà, organe dont les séances étaient tellement confidentielles qu'on pouvait lire différents rapports pour chaque réunion, puisque chacun des informateurs de la police rédigeait sa propre copie en ignorant l'existence des autres. Et on y repère également des renseignements éminemment privés, comme par exemple une banale dispute conjugale entre Carlo et sa femme, extrapolée par un espion lors d'une visite au domicile du chef de Justitia Libertà en Notre-Dame-des-Champs. Ainsi s'est précisé petit à petit l'idée de créer une liste d'adresses rosselliennes repérées dans ses rapports de police, mais aussi dans la correspondance personnelle du chef de Justitia Libertà. Pour en tirer quelques hypothèses sur son expérience politique et intellectuelle, ou du moins sur le cadre matériel de celle-ci. On y dépassait alors le projet de guide pour monde touristique pour entrer dans celui de l'essai historique peut-être plus avouable, quoique agrémenté par les nombreuses images d'archives de la famille Rosselli et du Paris du XXe siècle, du début du XXe siècle. Il ne s'agissait pas seulement d'aligner des lieux de mémoire ayant une vocation plus ou moins commémorative. Par ailleurs, il convient de préciser que certains des immeubles décrits dans cet ouvrage n'existent plus aujourd'hui. Même si le lecteur qui cédera à la tentation de parcourir l'une des promenades rosséliennes suggérées d'un appendice parviendra peut-être à charger de sens les immeubles et les rues en apparence anonyme. Je disais donc qu'à partir de la liste des adresses rosséliennes, j'ai tâché de tirer quelques conclusions d'ordre historique. L'un des éléments qui m'a tout de suite frappé est la participation, certes irrégulière, mais tout de même répétée dans le temps, du chef de Justice et Libertà à des événements de premier ordre dans la vie culturelle parisienne et française des années 30. Ce niveau d'intégration lui permettait, par exemple, d'assister et d'intervenir à plusieurs reprises aux réunions de certains cénacles intellectuels tels que les Décades de Pontigny, de l'Union pour la Vérité ou du Centre de Documentation Sociale de l'École Normale Supérieure. Il est vrai que certaines de ces fréquentations demeuraient superficielles. En effet, Rosselli multipliait les contacts aussi pour sensibiliser le milieu intellectuel aux questions italiennes qui pouvaient interpeller l'opinion publique française et internationale, par exemple la question des déportés politiques, les corporations fascistes, la guerre en Abyssinie. Il n'en demeure pas moins que Rosselli a été le seul parmi les dirigeants antifascistes italiens, hormis Angelo Tasca, à disposer d'un réseau de connaissances aussi hétérogène que prestigieux. Il suffit de mentionner les noms de certains de ses interlocuteurs, l'historien Elia Lévy, les sociologues Célestin Bouglé et Georges Gourvitch, ainsi que certains des intellectuels des revues non conformistes des années 30, à commencer par Emmanuel Mounier. Je suis arrivé à la conclusion que les contacts français de Rosselli ont influencé d'une façon significative sa révision du socialisme. Il s'agit évidemment d'un point que j'aborderai plus en profondeur dans le cadre de ma thèse. En effet, l'approche et les thèmes développés dans cet ouvrage ne reflètent pas parfaitement ceux de mon projet doctoral. Il s'agit plutôt d'un premier effort dans la direction d'un travail, bien entendu, beaucoup plus vaste. Par ailleurs, je souhaite conclure avec deux mots sur la pensée politique de Carl Rosselli. Dans la préface de son essai « Socialisme libéral », on peut trouver une réflexion aux allures évidemment autobiographiques. Le socialisme se fait-il libéral? Le libéralisme devient-il socialiste? L'un et l'autre. Deux visions très élevées mais unilatérales de l'humanité ont tendance à s'entrepénétrer, à se compléter réciproquement, le rationalisme hellénique et le messianisme d'Israël. Le premier règne par amour de la liberté, le respect des autonomies, une conception de la vie harmonieuse et détachée. Le second professe une justice toute terrestre, le mythe de l'égalité, une inquiétude spirituelle opposée à toute espèce d'indulgence. Ces deux visions très élevées dont parle Rosselli sont aussi celles qui animent l'homme des Lumières, qui conçoit l'action politique à partir de ses propres sentiments moraux, dans le respect de la conscience d'autrui. Par conséquent, l'opposition du chef de GL au fascisme se développe d'abord, même si pas exclusivement, à partir d'une critique des mœurs, i costumi, ce qui est particulièrement évident dans sa dernière intervention publique prononcée à l'occasion de la mort d'Antonio Gramsci. Le chef de Justice et Libertà décrit alors le caractère de Mussolini comme extérieur, bruyant, irrationnel, improvisateur, démagogue, aventurier. Il s'agit d'un portrait très gobétien en opposition à celui de l'intellectuel communiste, intime, réservé, rationnel, sévère, ennemi de la rhétorique en toutes sortes de facilités. Lors de ses discours, deux semaines à peine avant son propre assassinat par membre de la cagoule, pour le compte du gouvernement fasciste, Rosselli utilise une formule qui pourrait finalement résumer sa propre expérience politique humaine. L'idéal en le sert, on s'en sert pas, et si nécessaire, l'on meurt avec la simplicité d'un Gramsci plutôt que de continuer à vivre en perdant la raison de vivre. Voici un enseignement moral des plus élevés qui, me semble-t-il, conserve encore aujourd'hui toute son actualité, en espérant bien entendu que nous ne soyons plus obligés comme Rosselli de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ses conséquences ultimes et fatales. Encore une fois, je remercie le jury du prix pour avoir redonné une nouvelle actualité ici à la pensée, à l'exemple de Carl Rosselli et au pont qu'il a constitué dans ses années parisiennes entre la France et l'Italie, entre une partie du monde intellectuel français et une Italie alors en exil. Je vous remercie.